Chapitre 31. Germantown, mercredi 31 décembre 1980. La pièce était glaciale et dépourvue de fenêtres. À vrai dire, c'était plutôt un placard. 1,80 m de long sur 1,20 m de large, trois murs de pierre et une épaisse porte en bois. Nathalie avait martelé cette porte jusqu'à s'en meurtrir les poings et les pieds, mais elle n'avait pas bougé. La jeune femme savait que des charnières massives et de lourds verrous devaient se trouver derrière l'épais panneau de chêne. C'était le froid qui l'avait réveillée. Elle avait d'abord senti la panique monter en elle comme une vomissure, lui faisant oublier les plaies douloureuses qu'elle avait sur le front. Elle se rappelait s'être tapie derrière des poutres calcinées, dans une odeur de cendre et de peur, tandis qu'une ombre armée d'une faux s'avançait vers elle dans les ténèbres. Elle se rappelait avoir bondi, lancé la brique qu'elle serrait dans sa main, essayé de contourner l'ombre qu'elle venait de faire sursauter. Des mains s'étaient refermées sur ses bras, elle avait hurlé, s'était débattue. Puis un coup sur la tête, un autre sur la tempe, sur le front, le sang qui coule sur son œil gauche et l'impression d'être soulevée, emportée. Un aperçu du ciel, de la neige, d'un réverbère penché. Puis le noir. Elle s'était réveillée au sein d'une obscurité si épaisse qu'elle était restée plusieurs minutes à se demander si elle n'était pas devenue aveugle. Elle avait quitté son nid de couverture, rampé sur le sol glacé et s'était heurtée aux limites de sa prison de bois et de pierre. Le plafond était trop haut pour qu'elle puisse le toucher. Des montants métalliques, ayant sans doute jadis supporté des étagères, étaient fixés au mur. Au bout de quelques minutes, Nathalie avait réussi à distinguer de minces bandes de pénombre au sommet et à la base de la porte. Pas de la lumière à proprement parler, mais une obscurité atténuée par un soupçon de lumière indirecte. Nathalie avait cherché les deux couvertures à tâtons et s'était accroupie dans un coin, frissonnante. Elle avait atrocement mal au crâne et se sentait sur le point de vomir sous l'effet de la peur et de la nausée. Toute sa vie, elle avait admiré les personnes capables de conserver leur calme et leur courage dans une situation extrême. Elle avait aspiré à ressembler à son père, un homme qui se montrait d'une compétence tranquille, là où d'autres auraient paniqué. Et voilà qu'elle se retrouvait tapie dans un coin, désespérée, tremblant de tous ses membres et suppliant un dieu quelconque d'empêcher le monstre blanc de revenir. La pièce était glacée, mais d'une façon qui n'avait rien à voir avec la froidure du dehors. On y avait plutôt affaire au froid humide des cavernes. Nathalie ignorait totalement où elle se trouvait. Plusieurs heures s'écoulèrent, et elle était sur le point de s'assoupir, toujours frissonnante, lorsqu'une lumière apparut en bas de la porte, suivie du cliquetis de verrou que l'on tire. Mélanie Fuller pénétra dans la pièce. Nathalie était sûre que c'était Mélanie Fuller. Même si la lueur vacillante de la chandelle que brandissait la vieille dame éclairait son visage par en dessous, le transformant en une bizarre caricature d'humanité. Joues et paupières sillonnées de rides, cou tout en fanon, yeux pareils à des billes au fond de deux trous sombres, paupières gauches avachies, cheveux bleutés clairsemés qui se dressaient sur un crâne tacheté comme sous l'effet de l'électricité statique. Derrière cette apparition, Nathalie distingua la silhouette efflanquée du monstre blanc, dont les cheveux pendaient sur un visage strié de boue et de sang. Ses dents cassées brillaient d'un éclat jaunâtre à la lueur de la chandelle. Il avait les mains vides et ses longs doigts blancs étaient agités de mouvements convulsifs, comme si son corps était parcouru de décharges électriques. « Bonsoir, ma chère, » dit Mélanie Fuller. Elle portait une longue chemise de nuit et une grosse robe de chambre bon marché. Ses pieds étaient enfouis dans des pantoufles de peluche rose. Nathalie resserra les couvertures autour d'elle sans répondre. « Il fait froid ici, n'est-ce pas, ma chère ?» reprit la vieille femme. « Je suis navrée. Si cela peut vous consoler, il fait froid dans toute la maison. Je me demande comment le Nord était vivable avant l'invention du chauffage central. »
Elle sourit et la lueur de la bougie joua sur son dentier parfaitement lisse.
« Voulez-vous vous entretenir avec moi quelques minutes, ma chère ?
Nathalie envisagea d'attaquer la vieille femme tant qu'elle en avait la possibilité, puis de se précipiter dans la pièce obscure derrière elle. Une pièce où elle distinguait une longue table en bois, de toute évidence une antiquité, et des murs de pierre. Mais le garçon aux yeux de démon lui embarrait l'accès.
« Vous avez apporté de Charleston une photographie me représentant, n'est-ce pas, ma chère ?»
Nathalie la regarda sans rien dire. Mélanie Fuller secoua la tête avec tristesse.
« Je n'ai aucune envie de vous faire du mal, ma chère, mais si vous refusez de me répondre, je me verrai obligée de demander à Vincent de vous réprimander. »
Le cœur de Nathalie battit un peu plus fort lorsqu'elle vit le monstre blanc faire un pas vers elle avant de s'immobiliser.
« Où avez-vous trouvé cette photographie, ma chère ?»
Nathalie essaya de rassembler assez de salive pour répondre.
« Monsieur Hodges. » « C'est Monsieur Hodges qui vous l'a donné. »
La voix de Mélanie Fuller était sceptique.
« Non, Mrs. Hodges nous a autorisé à fouiller dans ses diapositives. » « Et qu'entendez-vous par nous, ma chère ?»
La vieille femme eut un petit sourire. La lueur de la chandelle illuminait ses pommettes qui saillaient sous la peau comme des lames de couteau sous un parchemin. Nathalie resta muette.
« Je présume que par nous, vous entendez vous-même et le shérif, »
dit doucement Mélanie Fuller.
« Pourquoi diable un policier de Charleston et une femme de couleur viendraient-ils jusqu'ici à seule fin de tourmenter une vieille dame qui ne leur a fait aucun mal ?»
Nathalie sentit la colère monter en elle, enflammant ses membres affaiblis, bannissant toute terreur de son corps.
« Vous avez tué mon père !» hurla-t-elle.
Son dos racla la pierre rugueuse lorsqu'elle essaya de se redresser. La vieille femme parut intriguée.
« Votre père ? Il doit s'agir d'une erreur, ma chère. »
Nathalie secoua la tête, luttant contre les larmes.
« Vous avez utilisé votre foutu domestique pour le tuer, sans raison. »« Mon domestique ? Monsieur Thorne ? Je crains que vous ne fassiez erreur, ma chère. »
Nathalie aurait craché au visage de ce monstre aux cheveux bleutés si elle avait encore eu de la salive dans la bouche.
« Qui d'autre me recherche ?»
demanda la vieille femme.
« Êtes-vous seulement accompagné du shérif ? Comment m'avez-vous suivi jusqu'ici ?»
Nathalie se força à rire, ne réussissant à produire qu'un petit bruit de crécelle.
« Tout le monde sait que vous vous cachez ici. Nous savons tout sur vous, sur le vieux nazi et sur votre autre ami. Vous ne pouvez plus tuer personne, quoi que vous me fassiez. Vous êtes fini. »
Elle s'interrompit tant les battements de son cœur étaient douloureux. La vieille femme parut inquiète pour la première fois.
« Nina ? »
dit-elle.
« C'est Nina qui vous envoie ?»
Nathalie mit quelques secondes à restituer ce nom, puis elle se rappela le troisième membre du trio décrit par Saul Lasky. Elle se rappela la description que Rob avait faite des meurtres de Mansard House. Nathalie regarda les yeux dilatés de Mélanie Fuller et y vit de la démence.
« Oui, »
dit-elle d'un ton ferme, sachant qu'elle risquait de se condamner, mais désireuse de frapper un coup décisif à n'importe quel prix.
« C'est Nina qui m'envoie. Nina sait où vous êtes. »
La vieille femme recula en vacillant comme si elle venait d'être frappée au visage. Sa mâchoire inférieure parut se décrocher. Elle s'agrippa au chambranle de la porte, regarda la chose qu'elle avait appelée Vincent, n'y trouva aucun remède à sa peur et octa.
« Je suis fatigué. Nous en reparlerons plus tard. Plus tard !»
La porte se referma à grand bruit. Les verrous furent remis en place. Nathalie se tapit dans les ténèbres et frissonna. La lumière du jour se manifesta sous la forme de deux minces bandes grises au sommet et à la base de la porte. Nathalie somnolait, fiévreuse, la tête en feu. Elle fut réveillée par un besoin pressant. Elle devait se soulager, mais rien n'avait été prévu à cet effet, même pas un pot de chambre. Elle se mit à tambouriner sur la porte et hurla jusqu'à en avoir mal à la gorge, mais personne ne lui répondit. Finalement, elle trouva une pierre à moitié décelée dans un coin, tira dessus pour l'enlever complètement, et utilisa la petite niche en guise de latrine. Lorsqu'elle eut fini, elle traîna ses couvertures près de la porte et se recoucha en sanglotant. Il faisait de nouveau nuit lorsqu'elle se réveilla en sursaut. On tira les verrous et la lourde porte s'ouvrit en grinçant. Vincent était seul. Nathalie recula à quatre pattes, cherchant la pierre descellée pour se défendre, mais le jeune homme fut sur elle en une seconde, lui agrippant les cheveux et la forçant à se redresser. Il lui passa un bras autour de la gorge, lui coupant le souffle. Vaincue, Nathalie ferma les yeux. Le monstre blanc la fit sortir sans ménagement de sa cellule, et moitié la traînant, moitié la poussant, la conduisit vers un escalier raide et étroit. Nathalie eut le temps d'apercevoir une cuisine sombre datant de l'époque coloniale et un petit salon où un radiateur à essence brûlait dans la cheminée avant de gravir péniblement les marches. Vincent lui fit traverser un étroit palier plongé dans l'obscurité, puis la poussa dans une pièce éclairée par des chandelles. Nathalie se figea devant la scène qui s'offrait à elle. Mélanie Fuller gisait en position fœtale sur un lit pliant au milieu d'un tas de couvertures et de couettes. Le plafond de la pièce était haut, son unique fenêtre occultée par un rideau, et elle était éclairée par trois bonnes douzaines de chandelles posées sur le sol, les tables, le rebord de la fenêtre, le dessus de la cheminée et en carré autour du lit. Ça et là traînaient les souvenirs des Cathy d'enfants morts depuis longtemps. Une maison de poupées cassée, un berceau aux barreaux métalliques qui faisait penser à la cage d'un petit animal féroce, d'antiques poupées de chiffon, et un troublant mannequin de petit garçon haut d'1,20 m qui semblait avoir souffert d'une exposition prolongée aux radiations. Il lui manquait des touffes de cheveux, la peinture de son visage s'écaillait, donnant l'impression qu'il était couvert d'hématomes. Mélanie Fuller roula sur elle-même et la regarda. « Les entendez-vous » murmura-t-elle. Nathalie tendit l'oreille. Elle n'entendait que le souffle court de Vincent et les battements précipités de son propre cœur. Elle ne répondit pas. « Elles me disent que l'heure est presque venue, » siffla la vieille femme. « J'ai envoyé Anne chez elle au cas où nous aurions besoin de la voiture. » Nathalie jeta un coup d'œil en direction de l'escalier. Vincent lui en bloquait l'accès. Elle parcourut la pièce du regard en quête d'une arme de fortune. Le berceau était trop lourd. Le mannequin probablement trop peu maniable. Si elle trouvait un couteau ou n'importe quel objet pointu, elle pourrait frapper la vieille femme à la gorge. Que ferait le monstre blanc si la sorcière vaudou venait à mourir? Mélanie Fuller paraissait déjà morte. Sa peau semblait aussi bleue que ses cheveux à la lumière vacillante, et sa paupière gauche était pratiquement close. « Dites-moi ce que veut Nina, » murmura Mélanie Fuller. Ses yeux ne cessaient de bouger, cherchant à saisir ceux de Nathalie. « Nina, dis-moi ce que tu veux. Je ne voulais pas te tuer, ma chérie. Entends-tu les voix, ma chère ? Elles m'ont dit que tu allais venir. Elles me parlent du feu et de la rivière. Je devrais m'habiller, ma chère, mais mes vêtements propres sont tous chez Anne, et c'est beaucoup trop loin. Il faut que je me repose quelque temps. Anne les ramènera tout à l'heure. Tu aimeras bien Anne, Nina. Si tu la veux, je te la donne. » Nathalie resta immobile, haletante, sentant monter en elle une étrange terreur viscérale. C'était peut-être sa dernière chance. Devait-elle tenter de contourner Vincent, de descendre l'escalier et de chercher une sortie, ou foncer sur la vieille femme? Elle regarda Mélanie Fuller. La femme sentait la vieillesse, le talc et la sueur rance. À cette seconde, Nathalie sut, sans l'ombre d'un doute, que c'était cette chose qui était responsable de la mort de Joseph Preston. Elle se rappela la dernière fois où elle avait vu son père, la serrant dans ses bras, à l'aéroport, 2 jours avant Thanksgiving, avec son odeur de savon et de tabac, ses yeux tristes et son sourire tendre. Nathalie décida que Mélanie Fuller devait mourir. elle banda ses muscles.
« J'en ai assez de votre impertinence, ma fille !»
hurla la vieille femme depuis sa couche.
« Que faites-vous ici? Retournez travailler! Vous savez comment papa punit les nègres indisciplinés !»
Elle ferma les yeux. Nathalie sentit quelque chose lui fendre le crâne comme une hache. Son esprit était en feu. Elle tourna sur elle-même, tomba en avant, tenta de retrouver l'équilibre. Ses synapses refusaient de fonctionner, et elle se mit à danser la tarentelle autour de la pièce. Elle heurta le mur une fois, deux fois, et tomba contre Vincent. Le garçon posa des mains sales sur ses seins. Son haleine empestait la charogne. Il arracha le chemisier de Nathalie.
« Non, non !»
dit la vieille femme.
« Va faire ça en bas. Ramène le corps à la maison quand tu auras fini. »
La harpie s'appuya sur un coude et regarda Nathalie d'un œil, la lourde paupière de l'autre ne révélant que la sclérotique.
« Vous m'avez menti, ma chère. Vous n'avez aucun message de Nina, finalement. »
Nathalie ouvrit la bouche pour dire quelque chose, pour hurler, mais Vincent lui agrippa les cheveux et plaqua une main puissante sur son visage. Elle fut traînée hors de la pièce, jetée dans l'escalier. Sonnée, elle essaya de s'enfuir en rampant, ses mains raclant les planches rugueuses. Vincent n'était pas pressé. Il prit tout son temps pour descendre les marches, arriva près d'elle alors qu'elle se dressait sur ses genoux et lui donna un coup de pied dans le flanc. Nathalie heurta le mur, essaya de se rouler en boule et de devenir invisible. Vincent lui saisit les cheveux des deux mains et tira. Elle se leva en hurlant et tenta de lui décocher un coup de savate dans les testicules. Il lui saisit le pied et le tordit. Nathalie tourna sur elle-même, mais pas assez vite. Elle entendit sa cheville se rompre comme une brindille et retomba violemment sur ses mains et son épaule gauche. La douleur déferla dans sa jambe droite comme une flamme bleue. Nathalie leva les yeux au moment où Vincent sortait un couteau de la poche de son blouson kaki et en faisait jaillir la lame. Elle essaya de s'éloigner, mais il se baissa, la grippa par les pans de son chemisier et la souleva. Le tissu se déchira à nouveau, et Vincent acheva de la déshabiller. Nathalie continua de ramper le long du couloir obscur, cherchant une arme à tâtons. Ses mains ne rencontrèrent que des planches froides. Elle roula sur le dos alors que Vincent avançait dans un grand bruit de bottes et s'immobilisait au-dessus d'elle, les jambes écartées. Nathalie roula sur elle-même et le mordit à travers le tissu sale de son jean, sentant ses dents s'enfoncer dans les muscles du mollet. Il ne broncha pas, ne fit pas un bruit. Le couteau passa au ras de l'oreille de Nathalie, tranchant la bretelle de son soutien-gorge et laissant un long sillage de douleur sur son dos. Nathalie en perdit le souffle, roula de nouveau sur le dos et leva les mains en un geste futile pour arrêter la lame prête à s'abattre de nouveau. Dehors, les explosions débutèrent.